franceinter.fr.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Cazavets contre Hollywood, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Sharif Gattas, réalisée par Laurence Courtois. John Cazavets est un mythe, un cinéaste inclassable, en guerre contre Hollywood, réalisant des films à petit budget avec une bande d'amis et de fidèles, généreux et indépendants. Inquiet et drôle, rageur et tendre, il invente un cinéma d'auteur et part en guerre contre tout ce qui représente le cinéma commercial. Il se définit lui-même comme suit, toujours en état de choc, réagissant toujours à un environnement insondable, cherchant l'équilibre délicat entre vivre et mourir. Mais il n'est pas avare non plus de conseils. Il disait par exemple au jeune metteur en scène, « Dites ce que vous êtes, pas ce que vous aimeriez être, pas ce que vous devez être. » Son cinéma était celui d'un écorché vif. Pendant 16 ans et 12 films, John Cazavets n'a cessé de graver sur l'image la nostalgie, celle des visages perdus, des sentiments dissous, d'un bonheur inaccessible, d'amour impossible. Depuis toujours, il filmait les mêmes choses, ces secrets proches et inaccessibles qui affleurent à la surface de la vie malgré nos efforts pour les refouler, ces personnages égarés dans une réalité effacée, et réalité qui doit être filmée en flagrant délit, sinon la vie perd toute sa magie. Il tente lui-même une explication sur cette énergie, cette quête. L'amour, le manque d'amour, la fin de l'amour et la douleur que cause la perte des choses qu'on nous enlève et dont nous avons tellement besoin, disait-il. Entouré d'une petite troupe de fidèles prêtes à le suivre au bout du monde, Ben Gazzara, Seymour Cassel, Al Ruban, de cet amour passionnel et partagé qu'il vit avec Gina Rowlands, John Cazavets a réalisé plusieurs films qui ont marqué le cinéma. Une femme sous influence, en 1975, Meurtre d'un bookmaker chinois, en 1976, Open Nights, en 78, et Love Streams, en 84, sa dernière œuvre. Ces films sont les jalons marquants d'un parcours hors du système cinématographique américain, mais c'est ce parcours, cette détermination qui lui donne une stature d'auteur mythique en Europe. Après la fiction qui nous raconte cette volonté de filmer hors des normes et du système hollywoodien, nous continuerons d'évoquer la vie, l'engagement et la personnalité de John Cazavets avec notre invité Thierry Jousse, critique de cinéma et auteur d'un livre intitulé John Cazavets, publié par les Cahiers du cinéma.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Cazavets contre Hollywood, de Sharif Gattas.
Je dis simplement que les films produits par les studios sont quasiment tous les mêmes, parce qu'ils respectent tous un cahier de charges identique. Mmh. Bon, c'est ok pour moi, hein, je suis d'accord. Je dis pas que c'est mal ou quoi que ce soit de ce genre. Seulement, il se trouve que l'infinie majorité de ces films ne reflètent pas la réalité du monde. Et ça m'emmerde, voyez-vous. Ça m'emmerde et je suis prêt à me battre contre ça. Hein. Je refuse de croire que c'est une fatalité. C'est pas la vraie vie que l'on filme à Hollywood. Ce qu'on donne à voir au public, c'est du faux, c'est du préfabriqué, du fabriqué, du mâché, remâché, dégueulé. Non, moi j'ai 33 ans, j'ai peu de choses à dire, mais il faut impérativement que je l'aie dit, sinon quoi? Je devrais accepter gentiment cette situation du cinéma commercial américain? Vous m'avez bien regardé, il n'en est pas question. C'est inadmissible, hein. Qu'une industrie ou maison mère soit la seule autorisée à exprimer sa façon de créer et de produire des films. Merde, alors, tenez, vulgarisons ce que je tente de vous dire. Hein. Un film commence. Générique. Un type sort de chez lui. Soudain, un duo de loubards surgissent et se mettent à ses trousses. Une course-poursuite s'engage et puis le type se fait rattraper, se prend une balle dans le ciboulot. Ah, c'est spectaculaire, il y a du sang partout, ça dégouline dans tous les sens. Parfait. Et vous êtes content? Hein, vous avez déjà vu ça, vous? Vous connaissez un type qui s'est pris une balle en sortant de sa maison? Mieux, vous connaissez un type qui connaîtrait un autre type, qui en connaîtrait un troisième à qui une chose pareille serait arrivée? Non, réponse non. Et pourtant, ce sont les films qu'on vous vend et que vous acceptez d'acheter. Ah, c'est comme ça, vous me demandez mon opinion sur Hollywood, je vous la donne. D'ailleurs, si vous ne me l'aviez pas demandé, je vous l'aurais livré de force, parce que je suis bourré et que j'ai une grande gueule. Mais ce constat, amer, je le concède, n'empêche pas les films d'exister, les acteurs de tourner, je ne fais pas exception à la règle, dans des super productions que les gens s'empressent d'aller voir dans les salles comme des moutons, pour la seule et unique raison qu'on leur dit que c'est bien, formidable, fantastique, incroyable, et que tel film va faire un tabac, qu'il faut absolument aller voir, payer sa place et poser son postérieur dans une salle obscure pour assister à ça. À un mensonge qu'on avale avec un gobelet de pop-corn. Alors, me voilà, je suis John Cassavetes et j'étais censé vous parler du film que je viens de tourner, L'homme qui tue à la peur de Martin Reed, mais comme je suis une saloperie d'opportuniste, j'en profite aussi pour lancer un appel aux auditeurs qui souhaiteraient voir un film qui parle d'eux, de la façon dont les gens échangent dans la vraie vie, de la manière dont ils se rencontrent, tombent amoureux, se donnent le meilleur ou le pire, parfois les deux, souvent même les deux. Ça n'a rien de politique, ce que je raconte. Moi, je m'en balance complètement de ces conneries théoriques. Je dis juste, si vous voulez voir un vrai film sur des vraies personnes, de vrais humains, alors, chers auditeurs, il faut y contribuer financièrement. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté.
Allô? Allô? Oh, j'entends rien. John? John, moins fort.
Tina, oui. Qu'est-ce que tu dis?
Je dis parler moins fort. Allô? Oui. Oui, oui, je sais. $2,000? C'est une somme, ça, $2,000. John, tu entends? C'est Jean Shepard de Night People. Il paraît que tu as... John, tu m'écoutes? Oui, bon. Je vais lui dire. Je lui dis, oui. Merci, merci, monsieur Shepard, merci. Il vous rappelle, sans faute. Votre attention, s'il vous plaît.
C'est
pour
ça que je te dis, il faut...
Fermez-la, deux secondes, fermez-la. J'ai une annonce à faire.
Les mecs, Gina a une annonce.
Alors, oui, bon, j'ai une nouvelle pour vous. Enfin, pour toi, John. C'était Jean Shepard au téléphone.
Ah oui?
Oh, oh.
Il m'appelait pour m'insulter?
Non, pas du tout. Ouais.
Pour exiger des dommages à intérêts, alors. Il peut se les mettre où je pense, ces réclamations. On n'a pas un rond ici, on est à sec.
Oui, oui.
Que dalle, niente.
Non, tu fais fausse route, chérie. Tu sais combien ta petite sortie radiophonique de l'autre soir vient de te rapporter?
2 ans de chômage à Hollywood.
Ouais.
$2,000.
Me paie-toi ma tronche.
Ah, mais je ne me paie pas ta tronche. C'est vrai? Les auditeurs t'ont envoyé la somme de $2,000 pour ton projet de film authentique, comme tu l'as dit à la radio.
C'est qu'elle insiste, la garce.
Gina, tu es sérieuse?
Je viens de raccrocher avec Shepard. Tu peux le rappeler si tu ne me crois pas.
Vous voyez, tu vois, Gina, je vous l'avais pas dit. Les gens sont moins indifférents que ce que ces gros bonnets d'Hollywood veulent nous faire croire. Ils sont moins indifférents, moins mollassons aussi, moins idiots, moins... Ils ont compris. Ils ont entendu et compris le message. Et ils ont envoyé du fric. Voilà, c'est tout.
Voilà.
Ils veulent voir un autre genre de film. Ils en ont plein le dos qu'on leur serve sans arrêt la même soupe froide, les mêmes navets à rebondissement avec de la belle lumière et de beaux costumes plein le dos et des clichés, des stéréotypes plein le dos.
Et alors?
Ben quoi, et alors?
Eh oui, alors. Et maintenant? Tu t'es pointé à ton émission de radio pour faire la promo d'un film et au lieu de ça, tu as dit que tu avais écrit un film. Un vrai, prêt à être tourné. Bon, alors je te demande, et maintenant?
Ben quoi? Oui, on va le faire, ce film. Qui nous en empêche?
Qui nous
Personne.
En empêche?
On les emmerde tous, après tout. Hein, on va tourner Shadows, et ce sera un film extra.
Shadows. C'est quoi ça, Shadows?
C'est le titre du film.
Ah, et tu as un scénario au moins?
Oui, enfin non, pas encore, mais...
Mais tu vas l'écrire.
J'ai l'idée, c'est beaucoup mieux qu'un scénario.
J'ai l'ambiance.
L'ambiance.
Oui, l'ambiance générale du film. Et j'ai dans ma tête, là, les personnages et puis des situations aussi.
Tu peux nous en dire plus ?
À propos de quoi ?
De l'idée, de l'ambiance générale.
Ben oui, bien sûr.
Tu sais, l'idée m'est venue pendant l'atelier de théâtre.
Oui.
On était en train de travailler sur une impro avec les amateurs. Un peu dirigé l'impro, mais une impro quand même.
Ouais.
Et tout à coup, je me suis dit, bon sang, mais ça fera un film super.
Mais oui.
C'est l'histoire d'une noire qui se fait passer pour une blanche et qui perd son petit ami blanc quand il rencontre son frère à elle, qui est noir donc, bien entendu.
Et
ben voilà, c'est à peu près tout. Après, on verra, je vais travailler à partir de ce canevas et ça ira très bien.
Bon ben, c'est super, John.
Oui, et 2 000 $, c'est une somme symbolique, d'accord, mais suffisante pour acheter une caméra et du matériel.
Dont tu ne sais pas te servir.
Putain, Gina, on va apprendre à s'en servir. Tu comprends ça ? Apprendre, c'est une caméra, pas une fusée. Si Ducon et Duchemol y arrivent, il faut bien y arriver, moi aussi, non ? C'est quoi le problème ?
Tu as sans doute raison.
Merci.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on veut ? S'exprimer, c'est ça notre désir intime, s'exprimer. On va le faire, toi, moi, Ben, Seymour, Al, tout le monde ici. On va le faire, on va porter la caméra, jouer, rouler des câbles, préparer à bouffer pour les autres, aller dans la rue, tourner des scènes et s'exprimer sur un morceau de pellicule, ok ?
Oui, ok, John. Formidable.
À l'expression.
Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. L'aventure artistique et ce qui va avec. C'est-à-dire les emmerdements, les problèmes d'argent, le financement des films, de reconnaissance. Et c'est à partir de ce moment-là que les relations personnelles de John avec les studios ont commencé à se tendre. Normal après tout. Mettez-vous dans les pompes des gros producteurs qui voyaient en lui une sorte de belle gueule à la James Dean ou à la Gary Cooper. Il avait le physique de l'emploi, le charisme, le talent aussi pour contrebalancer une figure comme celle de Marlon Brando. James Dean venait de se foutre en l'air. John était tout désigné. Dans les années 50, John fait de la télévision. Il tourne quelques films. Sa cote monte en flèche. Et puis voilà que d'un coup, il se met à exprimer un désir féroce de liberté, ce qu'on a. Et il l'exprime en critiquant Hollywood et son mode de fonctionnement en plus. Non mais franchement, imaginez la tête des patrons de la Columbia ou de la Warner. Ils se sont dit, le petit-fils d'immigré grec a pété les plombs avec ses envies de nouveau cinéma. Il se prend pour Jean-Luc Godard. Et à Hollywood, l'équation est simple. Combien ça rapporte en dollars votre affaire ? Que dalle ? Très bien, flanquez-moi tout ça aux ordures. Le calcul est vite fait. Le business avant tout. Le business et rien d'autre. Et si vous n'êtes pas de leur avis, vous pouvez toujours courir après un boulot. Les portes seront verrouillées pour votre gueule. Croyez-moi. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Ça n'a pas vraiment évolué d'ailleurs.
Je vais payer et on rentre, ok ? Comment ça, faux ?
Faux. Ben, on rentre pas. Enfin, moi, je rentre pas.
Oh, arrête tes conneries, John. T'as dit à Gina qu'on allait acheter des cigarettes.
Et alors ?
C'était jeudi à 11h du matin.
Et donc ?
On est vendredi, il est 3h du matin. Gina va faire la gueule.
Putain, je l'aime, Benny.
Mais elle fera la gueule quand même.
Putain, ce que je l'aime, c'est pas permis d'aimer quelqu'un comme ça.
Je crois que c'est réciproque, John. Allez, viens, je te ramène.
Pas question.
Oh, John, merde, je suis sur les rotules. Je vois plus devant moi. Allez, fais un effort, on y va, je te le demande.
Cette ordure de Kramer.
Ah non, tu vas pas recommencer. Non, ah non, je t'en supplie. Hein. Pas cette histoire encore.
Il m'a bien baisé la gueule, celui-là. Résultat ?
Je sais. John, on sait. Tout le monde sait, il t'a confisqué le final cut d'un enfant à temps. Et par conséquent...
Ce con a bousillé mon film. Je le déteste, ce fils de pute. La soi-disant originalité de son film tient au constat débile que les enfants retardés mentaux sont solitaires et qu'il faut donc les caser dans des institutions avec d'autres mômes dans leur genre. Et c'est le contraire de ce que moi je pense. Et le contraire de ce que j'ai tourné, crétin de Kramer. Ces gosses ont le droit de vivre où ils veulent et comme ils veulent. Et le problème, c'est que les cons, c'est nous. Point barre. Et c'est ça que j'ai filmé.
Considère que c'est pas ton film. C'est le film d'un producteur répondant au nom de Stanley Kramer. Tout ça, c'est derrière toi, John. Faut aller de l'avant, là.
Tu vois, après Shadows et le prix à Venise, je pensais que ça allait rouler, que les majors allaient voir les choses autrement. Mais non. Il a fallu que des mecs comme Kramer me proposent des scénarios et m'attirent à eux. Enfin tu sais comment ça se passe. Toujours la même histoire avec ces gens-là. Et qu'un soldat sort du rang, on le met en joue, on lui dit « Gare à toi, mon petit gars, ta carrière risque d'en prendre un sacré coup, tu sais. Mais si jamais on s'aperçoit qu'on peut servir des déserteurs pour faire du fric, alors là, on leur dit « T'as eu raison de suivre ta voie, John. C'est bien ce que tu fais, on a besoin de talent, comme le tien, Hollywood, dans le temple du cinéma. Viens avec nous, viens, on t'embêtera pas, tu seras indépendant. » Indépendant, mon cul.
John, arrête de broyer du noir comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Et au bout du compte, on les aura. Toi, moi, Gina, tous les autres, on les aura. Tu le sais. La chance a déjà tourné. Mais il faut enfoncer le clou, c'est tout.
J'aurais dû dire, non, allez vous faire foutre. Ça n'aurait en rien constitué une défaite. Au contraire, ça aurait été un défi au système. Seulement, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais le faire, que je pouvais réaliser un film pour les studios sans y laisser mon orgueil. Tu comprends, ça?
T'as rien laissé du tout, John.
Ma dignité.
Non, non, non. Tu t'es fait enfler. Comme beaucoup d'autres avant toi, qui ont confondu l'art et le commerce. C'était courageux de ta part, de tenter l'aventure.
Sauf que c'est une entreprise impossible. Impossible. Dès lors que tu refuses de faire des compromis, t'es mort à Hollywood. Bon sang, quelle autre qualité un metteur en scène a-t-il à donner, si ce n'est sa conception personnelle des choses, de la vie, de l'art et du reste? Et voilà précisément la seule marge de manœuvre qu'on ne t'accordera jamais à Hollywood. Elle est pas belle, la vie?
John, faut que je te dise un truc.
Tu m'aimes? Je sais.
Hein?
Bah, t'es amoureux de moi, c'est ça?
C'est pas vrai, Mickey. On peut jamais parler sérieusement avec toi. Toi, t'as le droit de te confier, de venir chialer sur mon épaule à 3h15 du matin. Hein? Mais moi...
Ça remet quand même un petit dernier?
Ah, c'est pas vrai. Tu veux me tuer ou quoi?
Écoute-moi bien, la plus grande histoire jamais contée sera un film spectaculaire, parce que je le veux. Tu saisis? Parce que je sais ce que demande mon public. Du grand, du très grand spectacle. Maintenant, tu m'excuses, mais j'ai John Cassavetes en face de moi. Et tu sais que je n'aime pas faire attendre les artistes talentueux. Merci, au revoir. $20 millions de budget. Et ce chef-op palanois s'accroche à l'idée absurde d'aller faire la photo chez des communistes italiens. Fellini, ou je ne sais quel genre foutre de Cinecitta. Non mais franchement, s'il s'imagine trouver du boulot à son retour celui-là, il se méprend très sérieusement sur mes intentions.
Fellini n'est pas un communiste, enfin, il me semble.
Fellini, tous les autres, tous des rouges, John. On est en Amérique ici, un pays où tout est beau. Grand, spectaculaire. Et c'est ça l'image de l'Amérique qu'il faut préserver et diffuser à travers le monde entier. Tu piges?
Que dalle.
Pardon.
Je comprends rien de ce que vous dites, monsieur. Absolument rien.
John, tu sais que je suis un homme ouvert d'esprit, mais je suis aussi quelqu'un de pragmatique. J'ai beau reconnaître que tu as beaucoup de talent. Enfin, à ce qu'on dit dans les corridors de cette maison de production. Néanmoins, je ne peux pas te laisser le champ entièrement libre sur les films qui sortent de cette major.
C'est la raison pour laquelle je ne veux plus faire de film pour vous. J'accepte de jouer, hein, mais pas de réaliser.
Tu dis ça aujourd'hui?
Non, non, c'est pas une lubie ou quelque chose de passager, monsieur. C'est pas un caprice de vedette non plus. Je pense sérieusement que vous faites fausse route.
Vous? Tu dis vous, c'est qui au juste?
Vous, Hollywood, les studios, tous autant que vous êtes. Je suis pas dupe, loin de là. Je sais pertinemment que le cinéma dépend des profits et des pertes.
C'est le principe d'une industrie comme une autre, en effet.
Oui, mais cette industrie ne peut pas survivre en muselant l'expression individuelle des artistes.
En muselant. Comme tu y vas. Qui parle de museler les réalisateurs ou les auteurs? Hein? Tu te sens brimé chez nous? Tu as l'impression qu'on t'empêche de t'exprimer librement?
Je me mets à votre place, même si je préfère rester à la mienne. Ce qui vous intéresse, la seule et unique chose qui vous intéresse véritablement, c'est le pognon.
Tu vas trop loin, John. Ce n'est pas parce que nous ne souhaitons pas financer un film qui raconte la vie morne et vide d'une femme cinglée que nous ne sommes intéressés que par le pognon.
Le pognon et rien d'autre, Jack. Vous remplir les poches, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, accumuler des montagnes de fric en pensant connaître le goût du public. Franchement, vous êtes fier de quoi?
John, je te conseille vivement de baisser d'un ton.
Vous vendez de la merde à tout le monde, et à la jeunesse en prime. Les pauvres, ils n'ont même pas le choix de décider de ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. Ils n'ont que vos navets
bon,
à se mettre sous la dent.
Comme ça,
non, j'ai pas terminé. Vous ne voulez pas financer mes films, ok, pourquoi? Parce que vous les trouvez inaccessibles, compliqués, durs sans doute. Il faudrait qu'ils soient plus faciles, plus niais, plus idiots, comme tout ce qui sort de votre usine Afrique. Mais si vous pensez que le public ne sait pas que la vie est difficile, alors vous n'avez rien compris.
Je ne sais pas si tes films sont bons ou mauvais, parce que je n'y comprends rien, et que je m'en contrefous de ce que tu racontes à l'intérieur de tes scénarios pour Intello. Ça m'éreinte, tu vois? Je m'endors, carrément. Et j'estime que si une histoire me donne envie de dormir, elle donnera envie de dormir à un paquet de gens. Au bout du compte, voilà les deux seules options qu'offre le cinéma de John Cassavetes. Des salles vides, ou des salles de repos dans lesquelles le public ronfle. Ce n'est pas ma conception du divertissement, vois-tu? À présent, je te prie de sortir de mon bureau, j'ai beaucoup mieux à faire que de débattre avec toi. J'ai des projets à 20 millions de dollars sur le grill. 20 millions! C'est ça! Casse-toi! Non, fous pas les pieds ici, espèce de raté.
Gina, t'es là?
Non.
Je peux rentrer? Bon, je rentre.
Ferme la porte, s'il te plaît. Je veux pas que John me voie dans cet état.
Qu'est-ce qui se passe?
Rien. Je suis fatiguée, Peter.
On l'est tous, si ça peut te rassurer.
Tu savais que John a hypothéqué la maison pour pouvoir tourner le film? T'étais au courant, alors?
Eh oui.
Toi, t'étais au courant, mais pas moi.
Ah, le con.
C'est peu de le dire.
Je lui ai dit, Gina. Je te promets que j'ai essayé. Mais il m'a regardé avec son air de gosse qui sait pertinemment qu'il va faire une énorme connerie, mais qui y va, envers et contre tous. Peter, il m'a dit, c'est qu'une maison. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est une maison, des briques et un toit. On va quand même pas s'empêcher de faire de l'art pour un tas de pierres. Et qu'est-ce que tu veux répondre à un mec qui te sort un truc pareil et qui est convaincu d'avoir raison?
Il est tellement têtu.
Têtu, comme un turc. Pour un grec.
Il va nous foutre sur la paille, Peter.
Écoute, John doit savoir ce qu'il fait.
Il sait pas du tout ce qu'il fait. Il fonce tête baissée comme un taureau dans une arène, sans aucune conscience de ses actes. C'est parfaitement irresponsable de sa part.
Et c'est pour ça qu'on l'aime, non? Je veux dire que c'est ce qui fait son charme, pas vrai?
Son charme? Et quand on sera à la rue, il aura l'air malin avec son charme.
Il faut lui faire confiance. Moi, j'ai confiance.
Ce matin encore, il est revenu d'un rendez-vous avec une major, il était fou de rage. Il a planté la Chevrolet dans le portail de la maison, il est rentré, il s'est enfermé dans son bureau et je l'ai entendu vociférer toute la matinée contre le système, contre les studios, contre les producteurs qui refusent d'injecter de l'argent dans son film. C'est... Je te jure, par moments, je me dis que c'est une entreprise impossible, tu vois. Un combat perdu d'avance. Je veux dire, il s'endette auprès de ses amis. Il contracte des crédits toujours plus importants. À présent... Il met en gage notre maison. Ça me fait peur, quoi. J'ai peur, c'est tout.
Je comprends. Je me mets à ta place, et je te comprends. Je t'assure, mais quel autre type est capable de réaliser ce que John réalise, hein? Non, mais c'est vrai, quoi, Gina. Tu te rends bien compte? On tourne tous à l'œil depuis des années, il y a bien une raison à ça.
Parce qu'il est génial, je sais.
Mais oui, il est génial. Bien sûr que John est génial. C'est ça, le truc. Ton mec, c'est Don Quichotte, tu comprends? C'est le Don Quichotte du cinéma américain. Et ça, c'est irrésistible. Un type avec un tempérament pareil, franchement, Gina. Un mec qui fait des films aussi dingues avec un panache inébranlable, moi, Peter Falk, je le suivrai au bout du monde, aveuglément, coûte que coûte. Voilà, c'est dit.
Il a de la chance d'avoir un ami comme toi.
C'est nous qui avons de la chance de vivre les expériences qu'il nous propose. Il est différent des autres. J'ai tourné avec tellement de réalisateurs qui n'en ont rien à foutre de ce qu'ils sont en train de faire, qui ne pensent qu'à l'argent, qu'au format, putain. John, c'est... Sa caméra, elle se rapproche au plus près de la vérité, de ce qu'on est. Et ça, c'est...
rare.
Unique, même.
Gina ? Moi, je dérange. Vous non. répétiez ?
Non.
Oui, c'est ça, vous répétiez. Moi, j'arrive avec mes gros sabots. Oh, pardon, je suis désolé. Je vous ai coupé en plus, c'est nul, vraiment. Je voulais juste savoir si tout allait bien. Enfin, visiblement, ça va, tout roule ?
Oui.
Hein ? Tout roule, n'est-ce pas ?
Oui, John, tout roule.
Oui, hein, c'est super, non ?
Oui.
Au poil, John, tout va merveilleusement bien. N'est-ce pas, Gina ?
Oui, oui, oui. On répète la scène de la chambre, tu sais, chérie. On essaie des trucs, Peter et moi, pour voir si tout roule, justement. Et
alors, ça roule comme vous voulez ?
Oui, parfaitement. Pas vrai, Peter ?
Ouais, moi, je la sens très bien, cette séquence.
Oh, bah, formidable, c'est tout ce que je voulais entendre. Je vous adore.
Mais si, John, on t'adore.
Bon, on la tourne cet après-midi.
D'accord.
On sera prêts.
Bon, je redescends. Hein. Les autres m'attendent pour tourner.
Oui.
Vas-y.
Bon, j'y vais. Ah oui, encore une chose. Ce soir, je vais m'absenter une heure ou deux. Il faut que j'aille récupérer de la bobine chez un mec qui produit des pornos. Il m'a promis de me refiler la fin des bobines qu'on rafistolera nous-mêmes. Enfin, on risque d'en avoir besoin.
Des pornos ? Génial.
Ouais, je sais. Bah, on fait comme on peut. Hein. À la guerre comme à la guerre. Bon, allez, j'y vais.
Ouais. John ?
Oui, chérie ?
Je t'aime, tu sais.
Oui, je sais.
John se prenait régulièrement le bec avec les patrons des majors à Hollywood. Même s'il évaluait parfaitement les problématiques matérielles auxquelles ces hommes d'affaires se frottaient au quotidien, l'absurdité de ce système le rendait dingue. Toute sa vie, Hollywood l'a traité comme un marginal. Alors la critique a suivi bêtement. Les journalistes qui faisaient autorité, type New York Times, ont dit « Qu'est-ce que c'est que ces dialogues qui commencent au milieu d'une phrase et se terminent avant la fin d'une autre ? Et pourquoi ils improvisent à tout bout de champ, ces acteurs ?» Ils voulaient une histoire avec un début, un milieu et une fin, heureuse de préférence. La fameuse dictature des « happy end ». John en avait horreur et il s'est rebellé contre ces méthodes. Tous ces films sont des bras d'honneur au système. Regardez Meurtre d'un bookmaker chinois. C'est une belle métaphore de ce que John subissait avec les studios. Au bout du compte, c'est une guerre qu'il a gagnée. Certains de ses films, notamment Une femme sous influence, ont remporté des prix importants. Ouais, celui-là a même rapporté de l'argent. Et les studios ont tiré la gueule, parce qu'ils pensaient que ça ferait un four colossal. John avait le don de leur faire la nique. Il a creusé un sillon. À grands coups de marteau, film après film. Là où il était impensable d'envisager une place pour un autre genre de cinéma que celui des studios. Regardez la violence chez Scorsese, dans Raging Bull par exemple. Ça vient de chez Cassavetes. Les longues séquences chez Woody Allen. Celle de Spielberg, dans Rencontre du troisième type, lorsque le couple se dispute. Cassavetes, encore. Ce que nous prenons pour acquis dans le cinéma d'aujourd'hui n'existait pas avant lui. John était un faiseur de miracles.
Vous avez repris la réalisation du film Big Trouble alors que le tournage avait commencé depuis un mois ?
En effet, oui. Mon agent m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait de le faire. Et j'ai dit oui.
Quel effet cela vous fait-il que ce qui sera peut-être votre ultime film ne soit pas vraiment votre film à vous.
Primo, j'en ai déjà fait l'expérience et je sais que ça n'est pas insurmontable. Vous savez, finalement, ça n'a pas été mal du tout. Je n'ai pas eu à m'en faire. Le casting était déjà bouclé, les lieux de tournage déjà choisis. Je suis juste arrivé là et j'ai tourné le film. Ça a été difficile, mais je me suis bien amusé.
Vous voulez dire Big Trouble a été difficile ?
Non. Ma vie.
C'était Cassavetes contre Hollywood de Sharif Gattas. Avec Eric Caravaca, Léa Védis-Bogart, Emmanuel Lemire, Jean-Luc Vincent, Mustapha Abourachid, Myriam Ajar et les voix de Cécile Laforest, Pauline Choplin, Payam Majlessi. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Mathieu Leroux. Assistant à la réalisation, Pablo Valero et Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
Quand j'étais enfant, je voyais Jimmy Cagney et Bogart et tous ces acteurs et je me disais, quelle vie merveilleuse ils ont. Ils ont la possibilité d'être là devant les gens, devant une caméra. Ils ont la chance de s'exprimer et ils sont payés pour ça. Ils ont une responsabilité vis-à-vis du public. C'est excitant, ça me plaît.
Donc vous n'avez jamais imaginé devenir seulement réalisateur ?
Non, je ne sais pas.
Non. Et je ne me perçois même pas comme réalisateur. Je pense même que je suis un des pires réalisateurs qui soit. Mais par contre, je m'intéresse à mes semblables. Le film, pour moi, ce n'est pas important. Mais les gens, eux, sont très importants.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Cassavetes contre Hollywood. Notre invité, Thierry Jousse, critique de cinéma. Bonjour Thierry Jousse.
Bonjour Fabrice Drouel.
Après avoir été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 1991 et 1996, vous avez écrit sur la musique dans Jazz Magazine et Les Inrecuptibles. Vous avez publié plusieurs livres sur le cinéma, notamment sur John Cazavet. C'est l'une des raisons de... C'est d'ailleurs la raison de votre présence avec nous aujourd'hui. Et vous avez réalisé 4 courts-métrages et 2 longs ainsi que 2 documentaires, dont le dernier s'appelle Jean Douché ou l'art d'aimer, fait en 2012. Et puis depuis la rentrée 2015, vous co-animez une émission autour des musiques populaires sur France Musique, notre radio cousine, membre de la famille Radio France.
Bon. Donc, bienvenue
chez vous, en quelque sorte. Hein.
Merci.
Alors, dans votre livre que je tiens entre mes mains, et qui s'appelle John Cazavet, et qui est donc publié au Cahier du cinéma, collection auteur, en avant-propos, vous écrivez que le cinéaste qui a le plus impressionné l'imaginaire et la cinéphilie européenne, eh ben c'est John Cazavet, justement.
Alors c'est oui, enfin je l'ai écrit il y a déjà un certain nombre d'années,
ouais,
donc
ouais,
peut-être
enfin, ça reste partiellement vrai en tout cas.
Oui, très certainement, parce que c'est un cinéaste qui est a longtemps été un peu méconnu d'ailleurs, même en Europe, alors qu'on sait qu'aux États-Unis il a été très méconnu, mais en Europe il a été. Mais enfin, il a fait son chemin peu à peu, et c'est vrai qu'il correspondait à une sorte d'image, de modèle, pourrait dire, d'un cinéaste qui était à la fois très américain et pas très américain par ailleurs, parce que évidemment il avait ce désir d'indépendance qui lui était beaucoup plus européen. Et du coup, c'est une figure très particulière. Puis il y a une séduction du personnage aussi qui contribue à son rayonnement. Hein, il faut bien le dire, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui avait une capacité de séduction. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai vu beaucoup d'images de lui dans ses films et puis parfois des documents annexes sur des tournages ou autres. Et c'est vrai qu'on sent que c'est quelqu'un qui porte quelque chose de très particulier, qui correspond à une époque, à une génération, mais en même temps qui va au-delà et qui, je pense, aujourd'hui encore, pour des jeunes cinéastes ou des apprentis cinéastes, français ou autres, a toujours cette capacité de contaminer, dans le bon sens du terme, la jeunesse, finalement. Quoi.
Et son côté rebelle par rapport à Hollywood, ça participe aussi de cette réputation, cette légende.
Bien sûr, oui, bah c'est quelqu'un qui s'est effectivement construit, je dirais, contre Hollywood, mais aussi d'une certaine manière à côté, c'est-à-dire quelqu'un qui a aussi construit sa petite entreprise familiale tout seul dans son coin, enfin avec ses amis, avec sa famille.
C'est important d'ailleurs, côté bande.
Absolument, c'est même fondamental pour lui, et évidemment c'est le premier finalement cinéaste indépendant américain. Alors aujourd'hui c'est une notion qui est très galvaudée, parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, indépendant de qui, de quoi. Bon, en fait on est souvent très dépendant quand on fait du cinéma de toute manière, parce qu'on est dépendant de l'argent, et c'est vrai que c'est le premier avec une forme de pureté, en tout cas voilà, apparente, qui correspond, je le disais déjà tout à l'heure, mais qui correspond à cette période aussi 60-70, qui est très porteuse, enfin surtout les années 60, où il y a un espoir, où il y a une sorte d'énergie comme ça qui circule, et on le voit bien quand on voit les images de Cassavetes chez lui en 1965, à l'époque de Faces, en marge du tournage, donc qui dure des mois, enfin bon voilà, une période de montage qui dure je ne sais combien de temps, entre plusieurs années, on voit bien qu'il est porté par non seulement par sa conviction à lui, sa volonté à lui, son désir à lui, mais également par quelque chose de plus large qu'est l'énergie de l'époque de la Californie. Quoi.
Son désir à lui, c'est quoi ? Cinématographiquement parlant.
Son désir à lui, si on le résume de manière très très directe, c'est de faire des films vrais où il y a des gens vrais. On pourrait dire ça comme ça. Alors ça, si on le dit comme ça, peut-être ça parle pas vraiment, mais c'est quand même il y a un désir d'authenticité, il y a un désir de casser les codes, quoi, de casser les moules hollywoodiens, ce qu'il a fait. Par exemple, si on prend juste une notion, les séquences dans un film hollywoodien, elles doivent durer un certain temps, elles doivent pas être trop longues, il y a quand même quelque chose. Alors chez lui, ça, le temps se dilate, ça peut aussi, vous prenez un film comme Une femme sous influence, un de ses films les plus célèbres et les plus forts, vous avez des scènes qui durent, je sais pas, la longue scène de repas où Peter Falk invite tous ses ouvriers pour manger des spaghettis de manière un peu au pied levé, et où Gina Rollins qui est sa femme doit cuisiner ses spaghettis, ça dure 20 minutes quoi, donc c'est-à-dire
le temps d'un vrai repas.
Bah voilà, on a effectivement, c'est exactement ça, on a un sentiment de durée réelle qui est tout à fait unique, surtout à l'époque.
Alors, quels sont les films que vous préférez? Alors, au-delà de vos goûts personnels, parmi les films que vous préférez, il y a peut-être justement l'identité Cazavet qui ressort, peut-être plus dans certains films que dans d'autres. Qu'est-ce qui est très cazavetien dans l'œuvre du cinéma?
Cinéaste, c'est difficile à résumer, mais bon, il y a effectivement. Et moi, ce que j'aime, entre autres, chez Cassavetes, et je pense que je suis pas le seul, c'est la façon dont il photographie un peu les fêlures de ses personnages. C'est-à-dire qu'il a une prédilection, par exemple, pour des moments où les gens s'abandonnent ou sont en état de faiblesse au fond. On le retrouve dans des moments au petit matin, dans des moments nocturnes, par exemple, dans un film que j'aime beaucoup, qui peut-être pas son plus connu, mais qui est un film très fort, qui s'appelle Faces, qui est au fond un film sur une histoire d'adultère tout à fait banale, une histoire de couple qui se déchire, bon voilà, pendant une nuit, et puis voilà, il y a une tentative de suicide, il y a des retrouvailles, bon c'est assez banal au fond ce que ça raconte, mais la façon dont il le raconte, enfin banal, tout en
proportion gardée, parfois banal,
mais voilà d'une certaine manière, mais la façon dont il arrive à le rendre, c'est quelque chose de totalement à part, avec le sentiment que ces personnages, encore une fois, qui sont devant l'écran, sont des êtres humains comme on en a rencontré au coin de la rue. Je sais pas, c'était comme si c'était vos voisins, quoi, d'une certaine façon. Donc on le retrouve ça dans plusieurs films. Je citais Une femme sous influence, bien sûr. Moi j'aime beaucoup aussi Meurtre d'un bookmaker chinois. Vous avez Ben Gazzara qui est dans une espèce d'état de séduction, mais en même temps quelque chose. On sent qu'il est mal d'une certaine façon, qu'il va vers une forme de mort. Et cette espèce de mélange entre la séduction et la mort, je trouve c'est aussi quelque chose de très particulier à Cassavetes. C'est en tout cas très particulier à ce film-là. Et puis il y a aussi un autre film qui est vraiment marquant. Je pense pour ceux qui l'ont vu, c'est Husbands, où on retrouve les trois amis, John Cassavetes, Peter Falk et Ben Gazzara, dans une virée, d'ailleurs suite à un enterrement, parce que c'est suite à la mort d'un de leurs amis d'abord ils se saoulent la gueule, puis ensuite ils vont à Londres où ils rencontrent des filles. Bon, tout ça est très improbable, mais il y a quelque chose d'existentiel au fond, moi, chez Cassavetes, que je reçois et que je retiens, et qui est assez rare, enfin en tout cas à ce niveau-là, de retrouver chez d'autres auteurs, finalement. Quoi.
Vous dites Cassavetes, vous? Dire Cassavetes, oui, non, ça passe aussi.
Oui, non, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un détail, mais c'est parce qu'il est d'origine grecque. Et alors, j'avais appris en travaillant sur le livre qu'effectivement, on disait plutôt Cassavetes à cause de cette origine grecque. Bon, d'accord. Ça vaut ce que ça vaut. Hein.
Ça vous gêne pas, c'est moi je dis Cassavetes, parce que j'ai
parfois
l'habitude.
Dit Cassavetes aussi. Hein,
bon, donc, d'accord. Alors, est-ce que le fait, cette liberté de dire, c'est pas parce qu'on est au cinéma qu'on va faire des compressions de temps pour donner du rythme, est-ce que ça rend son cinéma difficile d'accès?
Bah, si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir ce genre de film, peut-être que, de fait, ça peut être difficile. En même temps, on peut être pris par quelque chose. Parce qu'au fond, moi, quand j'ai découvert Cassavetes, je ne sais plus comment dire.
Non, franchement, dites comme vous le sentez, en toute liberté.
J'étais pas préparé. J'avais, je sais pas, 16 ans. J'ai vu le film Une femme sous influence dans une émission qui s'appelait Dossier de l'écran à l'époque, hein, que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas. Et en version française. Donc, vous voyez, j'étais un peu cinéphile, mais enfin, pas à ce point-là. Et j'ai été touché par le film de manière très directe, malgré, effectivement, des aspects qui auraient pu me rebuter, c'est-à-dire la durée, voilà, des choses qui sont un peu heurtées, des dialogues qui sont pas toujours audibles. Bon, voilà, il y a un côté pas fini, mais volontairement chez Cassavetes. Donc ça peut rebuter, parce que si on est habitué de fait au rythme des séries d'aujourd'hui, de tout ce qui se produit, l'image d'aujourd'hui est de plus en plus rapide, rythmée. Ça fait déjà pas mal de temps d'ailleurs. C'est vrai que ça peut, mais en même temps, du coup, ça peut aussi avoir on peut recevoir un coup de poing dans l'estomac aussi d'une certaine façon, parce que tout d'un coup, on est confronté à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le flux général des images qui est quand même très très important aujourd'hui. Donc ça fait sens aussi pour ça, c'est-à-dire tout d'un coup on peut découvrir. Donc c'est à la fois difficile, mais en même temps il faut, si on se laisse porter, si on s'abandonne à ça, ça peut être extrêmement payant, si je puis dire.
Bien, Thierry Jousse, on se retrouve dans, on va souffler un peu, hein, puis on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler de John Cassavetes ou Cassavetes.
He didn't turn off the light.
Puisque nous parlons de John Cassavetes, nous allons parler de Gina Rowlands, d'accord ? Parce que mélanger vie et travail, désir et création, comme ils l'ont fait tous les deux en tant que couple, c'est un peu comme Godard qui, dans Sauf qui peut la vie, fait dire à Jacques Dutronc comment aimer et travailler. Eux, ils ont réussi ça, ce pari-là.
Apparemment, ça n'a pas toujours dû être simple, hein, déjà non. Parce que je crois que Gina Rowlands était parfois un peu agacée par l'invasion permanente des amis, du collectif au fond qu'il y avait autour de Cassavetes. En plus, on sait que Cassavetes a été quand même alcoolique, en tout cas il a énormément bu, donc ça n'a pas non plus toujours facilité les choses. Mais en même temps, on a le sentiment quand même d'une sorte de fusion entre ces deux personnages, Cassavetes et Gina Rowlands, qui se sont rencontrés très tôt, hein, dès les années 50, avant même que John Cassavetes devienne à la fois un acteur un peu connu, puis surtout un cinéaste très particulier. Donc on sent qu'ils se sont construits ensemble et que d'une certaine manière, l'un sans l'autre, ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'au fond, John Cassavetes s'est aussi beaucoup appuyé sur sa femme, surtout à partir d'une certaine époque, surtout dans les années 70, pour construire des personnages hors normes de femmes qui sont restées vraiment dans l'histoire, non seulement dans l'histoire du cinéma, mais je dirais presque dans l'histoire tout court. Parce que quand vous voyez ce personnage d'une femme sous influence ou cette actrice qui commence à vieillir un peu dans Opening Night, qui est angoissée, qui fait un peu n'importe quoi par moment, essaye de retrouver ses marques sur la scène de théâtre, vous avez l'impression de voir des personnages de femmes qui sont totalement hors du commun, d'une certaine, et en même temps très banales, puisque je reviens à mon propos initial. Et je pense que il y a vraiment une vraie histoire de couple qui n'a pas été fabriquée par les médias, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi chez eux.
Vous avez prononcé le mot théâtre, et je crois savoir qu'il est très imprégné d'une espèce de théâtre de Tchekhov, de Beckett, de Tennessee Williams, son cinéma s'en ressent, enfin, positivement. Hein.
S'en ressent plutôt pas mal, parce que souvent, ces longues scènes que je décrivais tout à l'heure, elles sont construites un peu comme des actes d'une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, certains films... Alors, on a beaucoup parlé d'improvisation à propos de John Cassavetes. C'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même des textes écrits réellement. Faces, par exemple, est construit vraiment en quatre actes, me semble-t-il. Et il y a vraiment cette influence du théâtre. Elle est très, très nette dans cette affaire. On peut jouer, je pense qu'on pourrait jouer, alors parfois c'est difficile pour certaines séquences, mais on pourrait jouer ces pièces et ces films au théâtre. Et puis il faut pas oublier qu'il a terminé sa carrière, parce qu'à la fin de sa vie, bon, il était très fatigué pour des raisons de maladie, mais également on lui proposait plus grand chose, ni comme acteur, ni comme metteur en scène. Donc il a fini un peu sa carrière en tant que metteur en scène de théâtre et auteur de théâtre, d'ailleurs à Los Angeles, en montant des pièces qui étaient pas très célèbres, et dans des petits théâtres, et ça a été, alors moi je n'ai pas eu l'occasion de les voir, mais je pense que ça a été sa dernière expérience de cinéaste. Il l'a faite au théâtre d'une certaine manière. Donc on voit bien que pour lui, les deux...
La boucle est bouclée.
Oui,
hein.
Absolument.
Vous préférez, je vais vous poser une question infernale, dès lors qu'il faut choisir, vous n'êtes pas obligé, mais bon. Vous préférez l'acteur ou le cinéaste ?
Je crois que je préfère quand même le cinéaste, parce que j'aime bien l'acteur même en dehors de ses propres films, parce qu'on l'a vu dans Rosemary's Baby, par exemple, c'est le mari de Mia Farrow, on l'a vu dans Les Douze Salopards de Robert Aldrich, on l'a vu dans quelques rôles marquants, mais quand même c'est le cinéaste qui va rester malgré tout, parce que s'il n'avait été qu'acteur, bon, il aurait été un acteur important, mais c'est pas aussi marquant peut-être que Marlon Brando ou d'autres.
Enfin, single quand même, hein. C'est ce qu'on appelle single. Sur la couverture de votre livre, la photo de Cassavetes en noir et blanc, très impressionnante.
Ça,
single de cinéma.
C'est une photo, alors bon, la radio c'est difficile de la décrire, mais c'est une photo qui date de l'époque de Love Streams, qui est pratiquement son dernier film, parce qu'ensuite il a fait un autre film qu'il a repris en cours de route, donc en 1983 je pense, et là il est déjà un peu défait quand même, parce qu'on sent les effets de l'alcool quand même commencer à se faire sentir, mais en même temps il est au top de sa séduction pour moi dans ce film. Mais c'est sans doute l'acte, c'est le rôle de lui que je préfère chez, d'ailleurs comme acteur, que ce soit dans ses films ou dans les films des autres. Et là, il y a peut-être, c'est là où la fusion d'ailleurs se fait. Et c'est drôle d'ailleurs parce que le couple Gina Rowlands, John Cassavetes, a peut-être jamais été aussi fort et aussi séduisant que dans ce film-là où il joue un frère et une sœur embarqués dans une histoire pas très complexe d'ailleurs, mais un peu improbable.
Toujours banal.
Voilà, d'une certaine manière.
Comme la vie.
Tourné comme toujours dans sa maison, dans leur maison, parce qu'ils ont beaucoup tourné dans leur propre maison, dans leur propre à Los Angeles. Donc c'est assez assez marrant. Et là, ils sont au, oui, je trouve qu'ils sont au zénith de leur séduction parce que ils sont tout à la fois, quoi, d'une certaine façon. Il y a à la fois l'énergie folle et en même temps quelque chose qui commence à être un peu plus crépusculaire chez eux, et enfin surtout chez lui, et c'est très très beau à voir.
Tiens, puisque je vous tiens, si j'ose dire, dans votre livre, en faire une explication de texte sur une phrase. Vous écrivez à propos du masque, le masque de Cassavetes, qu'il n'est pas l'équivalent du mensonge, ni le contraire de la sincérité, il est la forme de la complexité de l'artiste. Alors, c'est beau, mais que voulez-vous dire précisément?
J'ai écrit cette phrase il y a longtemps, donc j'étais jeune, je ne sais même pas si je vais pouvoir l'expliquer moi-même. Non, je pense que c'est la construction de ce que j'ai dû vouloir dire, parce que je ne me suis pas relu récemment, je voulais dire que c'était sans doute la construction d'un personnage, c'est-à-dire que c'est ce qui peut être finalement compliqué à un moment chez Cassavetes, c'est que cette authenticité dont je parlais tout à l'heure, elle est réelle, elle existe, et en même temps, c'est une construction. C'est-à-dire que c'est un film, ça ne se fait pas. Un acteur, c'est pas quelqu'un qui joue comme ça de façon spontanée. C'est tout un travail, et c'est ça sans doute que j'ai voulu entendre. C'est que le masque, c'est aussi quelque chose qui est un révélateur au fond, mais il faut l'habiter, il faut le construire d'une certaine manière. Et c'est le paradoxe de Cassavetes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malentendus chez lui, parce que quand on voit ses films, on pourrait dire c'est totalement spontané, c'est presque entre guillemets pour ceux qui n'aiment pas n'importe quoi, mais pas du tout, c'est très construit, ça a été fait avec énormément d'amour, mais aussi énormément de travail, de patience, c'est souvent des choses qui ont été faites de manière extrêmement artisanale, j'aime bien l'expression de René Char, artisanat furieux, bon, c'est un peu ça. Et donc il y a quelque chose qui ressort de ça, c'est pour ça que c'était l'idée de la construction, voilà, qu'il y a aussi une forme d'artificialité, mais dans le sens positif, au sens du travail, chez Cassavetes.
Quelle place il tient dans le panthéon des grands cinéastes? Parce qu'on peut le mettre dans les grands cinéastes, et il était très influent. Les gens qui aiment Cassavetes sont souvent très cassavetiens, hein, c'est comme une école, quelle place il tient?
Il y a eu une période, en tout cas, après sa mort, et dans les années 90, quand ses films sont ressortis, qu'on a pu vraiment les voir, parce qu'on les avait peu vus finalement avant, grâce à d'ailleurs Gérard Depardieu et Jean-Louis Divy à l'époque, qui ont ressorti Faces, Shadows et quelques autres films, il y a eu un effet, je dirais, Cassavetes, qui a été assez fort sur le jeune cinéma français. On peut citer par exemple quelqu'un comme Cédric Kahn, qui à l'époque était un cinéaste en herbe, qui commençait sa carrière et dont on sentait l'influence à la fois de Piala et de Cassavetes, qui étaient quand même les deux influences. Avant, il y avait eu Jean-François Stévenin qui se réclamait de Cassavetes, alors qu'il a fait très peu de films en tant que réalisateur, mais qui quand même a capté cette énergie-là. Donc on a senti que ce cinéma proche du réel, qui était peut-être plus présent à cette période-là, mais moi je le retrouve aussi chez par exemple Abdelatif Kechiche, hein, d'une certaine façon. Je ne sais pas du tout si lui se réclame de quelque manière que ce soit de Cassavetes, mais quand vous voyez certaines séquences très longues aussi chez lui, ou cette façon de dilater le temps, cette manière d'être au plus près des corps, c'est quand même, ça vient de Cassavetes. S'il n'y avait pas eu Cassavetes, je pense qu'il n'y aurait pas eu Abdelatif Kechiche, et ça vient un peu de Piala aussi parce qu'on est en France, mais peut-être encore davantage pour moi de Cassavetes.
Bon, bah donc c'est un cinéaste important.
Je le crois.
Ah, la réponse nous dit cela. Merci infiniment Thierry Joussin. Je rappelle le titre de votre livre, John Cassavetes, au cahier du cinéma. Au revoir. À
bientôt. Merci, au revoir.
C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Cassavetes contre Hollywood. Une fiction écrite par Charif Gattaz, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Valentin Hazan.